Nous avions commencé ces deux dernières conférences à entrer dans le mystère de la famille, famille-église domestique, entrer dans la famille en tant qu'elle est partie intégrante de l'Église, partie fondamentale de l'Église, partie qui a quelque chose de propre à réaliser. L'Église ayant comme mission de continuer la mission du Christ, le Saint-Père l'a dit avec une telle force dans son encyclique Redemptor Hominis, que l'Église, que la famille, partie intégrante et fondamentale de l'Église, doit elle-même continuer la mission de Jésus. Cette mission est une mission sacerdotale, une mission royale et une mission prophétique. Je rappelle cela, c'est parce que c'est important. Forcément, cette année-ci, la réflexion est plus théologique que les autres années. Elle demande un effort un peu plus grand de votre part, mais je crois que c'est important progressivement d'arriver à cette réflexion qui doit se faire toujours dans la lumière de l'enseignement actuel de l'Église sur la famille. La dernière fois, j'avais essayé de vous montrer comment la famille est liée au culte divin, fondamentalement. Comment les grands aspects de notre vie humaine doivent être vécus d'une manière religieuse et chrétienne dans la famille. Aujourd'hui, nous allons préciser l'aspect proprement chrétien de ce culte. Toute religion a un culte, puisque le propre d'une communauté religieuse, c'est d'essayer par des gestes et des paroles de traduire ce qu'au plus intime de notre âme, nous vivons dans notre attitude religieuse. Au point de vue naturel, hein, n'oublions pas ça. L'adoration, la louange, la demande à l'égard de Dieu, la reconnaissance, ce sont des attitudes naturelles. Un homme n'est pas vraiment homme, c'est-à-dire pleinement homme, s'il n'adore pas. C'est important de se le rappeler aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter de le dire, parce que les hommes l'oublient. Ils croient qu'être homme, aujourd'hui, c'est payer ses dettes. Ils croient qu'être homme, aujourd'hui, c'est arriver à une certaine responsabilité importante au point de vue économique, au point de vue réalisation matérielle. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a dans l'homme quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus radical, c'est cette dépendance à l'égard de Dieu, du Créateur, qu'il doit essayer de découvrir. Dieu lui laisse le soin de le découvrir, et chacun d'entre nous, nous devons le découvrir en profondeur. Ça fait partie de cette attitude religieuse. Et l'attitude religieuse commence par l'adoration. Quand on est en communauté, qu'on est plusieurs à reconnaître cette adoration, cette louange, cette demande, cette action de grâce à l'égard du Créateur, on peut l'exprimer d'une manière communautaire. Et l'exprimer d'une manière communautaire, c'est ce qu'on appelle une prière liturgique. Il y a une liturgie dans toutes les grandes traditions religieuses. Et il y a une liturgie chrétienne. Et la liturgie chrétienne a quelque chose de particulier. Le chrétien n'a pas à se mettre à l'école d'autres liturgies, parce que sa liturgie chrétienne a quelque chose de plus que toutes les autres, liturgies religieuses. Parce qu'il a une plénitude de révélation qui lui permet d'adorer en esprit et en vérité. qui lui permet d'adorer en union avec celui qui est l'envoyé du Père et le Fils bien-aimé du Père et le Fils bien-aimé de Marie. Grâce au mystère du Christ, notre attitude religieuse prend une signification ultime et dernière. Grâce au mystère du Christ, la liturgie chrétienne rejoint ce qu'il y a de plus profond dans notre vie chrétienne, l'exercice des vertus théologales, de foi, d'espérance et de charité. Et la liturgie chrétienne a ceci de particulier, c'est qu'elle est comme assumée, transformée par les vertus théologales de foi, d'espérance et d'amour, qui assument l'exercice de la vertu de religion pour lui permettre d'atteindre plus profondément le mystère de Dieu. Ce n'est plus seulement le Créateur que nous regardons, mais c'est le Père, celui qui nous sauve par le Christ. Et notre liturgie prendra une dimension nouvelle grâce à cela. Et cette liturgie chrétienne va impliquer les sacrements. Et les sacrements, c'est bien Jésus qui vient vers nous, Jésus qui prolonge pour nous le mystère de la rédemption. Et le mystère de la rédemption prend alors pour nous cette valeur unique, cette valeur divine, qui fait que, de fait, par les sacrements, le mystère de la rédemption est présent dans notre vie. C'est toute la grandeur des sacrements. Et je crois qu'il est bon, actuellement, de se le rappeler, surtout dans cette année sainte, l'année de la rédemption. Se rappeler que nous sommes liés au Christ par les sacrements. Et les sacrements n'ont pas d'autre sens que de nous relier au Christ d'une manière immédiate, dans la foi, dans l'espérance et l'amour. Et c'est là la difficulté. C'est que nous ne voyons pas à travers les sacrements les gestes du Christ pour nous. Nous ne voyons pas assez, à travers les sacrements, la présence de Jésus rédempteur, la présence de Jésus sauveur. Nous ne voyons pas assez, à travers le sacrement de la messe, par exemple, le sacrement de l'Eucharistie, Jésus qui se donne pour nous, comme il s'est donné à la croix. Nous ne voyons pas assez, à travers le sacrement de pénitence, la présence de Jésus qui pardonne. Nous devons essayer de comprendre, aujourd'hui, comment la famille est le lieu privilégié de cette entrée dans les sacrements pour que ensuite nous puissions vivre toute notre vie le mystère des sacrements. Il y a comme une initiation familiale qui est propre aux sacrements. C'est cela que je voudrais essayer de comprendre avec vous, que moi-même je cherche, croyez-le bien. Parce que ordinairement, on voit le traité des sacrements, et puis très très bien, et on ne voit pas suffisamment le lien qui existe entre les sacrements institués par Jésus et le mystère de la famille. Je regarde toujours l'origine de la liturgie chrétienne. C'est Marie. C'est à l'intérieur d'une famille. C'est quand même un petit indice. Le Magnificat, c'est une liturgie familiale. Et d'une manière étonnante, ce sont deux mères qui se rencontrent, l'une jeune, l'autre un peu plus âgée, qui se rencontrent et qui attendent leur enfant. C'est donc le moment de la fécondité de la famille. Cette rencontre de Marie avec Élisabeth. Marie conduite par l'Esprit Saint. Marie qui a compris pourquoi l'ange lui avait donné ce signe qu'Élisabeth, la femme stérile, attend un enfant et qu'Élisabeth a besoin de Marie. Pas tellement matériellement. Elle a besoin de Marie pour autre chose, pour quelque chose de beaucoup plus profond. Pour être vraiment la mère qui attend le précurseur. C'est quand même un rôle assez particulier, hein, d'attendre celui qui sera le Jean-Baptiste qui annoncera le mystère de l'agneau. Marie comprend la signification de ce signe et elle va en toute hâte auprès d'Élisabeth. Mystère de charité fraternelle qui s'épanouit dans une liturgie, le premier moment de la liturgie chrétienne. Le Magnificat assume tous les psaumes, la grande liturgie de l'Ancien Testament, pour lui donner une note chrétienne. Et par le Magnificat, tous les psaumes deviennent chrétiens par Marie. Et ceci dans un climat familial. Élisabeth, Marie et les deux enfants présents d'une manière souterraine, Jésus agissant à travers Marie et l'Esprit Saint se servant du petit Jean-Baptiste pour éclairer sa mère. C'est assez extraordinaire, hein, de regarder ce mystère de la visitation comme la charité fraternelle, comme la liturgie chrétienne qui jaillit d'une charité fraternelle et qui exprime combien Élisabeth et Jean-Baptiste, Marie, sont enveloppés de la miséricorde de Dieu, de la miséricorde de Jésus. En toute hâte, Marie va auprès d'Élisabeth. En toute hâte, Jésus devance son heure par l'Esprit Saint et transforme Élisabeth par le tressaillement de son enfant et transforme Marie. Et nous sommes en présence de cette action de grâce merveilleuse du Magnificat. Premier moment de la liturgie chrétienne, ce n'est pas au temple, c'est entre des mères. Ça n'excuse pas les pères, on sait très bien, ils sont présents d'une autre manière. Zacharie, il doit être là, mais il est muet, il ne peut rien dire au Magnificat de Marie, tandis qu'Élisabeth a pu accompagner Marie. Et Joseph, nous savons bien, il est dans une période d'attente. Il ne sait encore rien. Il attend le retour de Marie. Second moment de la liturgie chrétienne. Je regarde la naissance. Noël. On peut dire que Noël est le second moment de la liturgie chrétienne, en dehors du temple. Normalement, Jésus aurait dû naître dans le temple, puisque le temple, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de la rencontre de Dieu avec les hommes. C'est le lieu de prédilection de la rencontre de Dieu avec les hommes. Eh bien, la rencontre de Dieu avec les hommes, c'est bien le mystère de l'incarnation. Pas de place pour eux à l'hôtellerie. Il n'y aurait pas eu de place pour eux dans le temple. Il a fallu que ce soit loin, dans une grotte, loin des hommes, loin du regard des curieux, et que ce soit dans une grotte, à la fois pour montrer la pauvreté de cette liturgie chrétienne, qui commence dans la pauvreté du mystère de Marie et de Joseph et de la Sainte Famille. Et cette pauvreté, c'est pour une plus grande intimité, c'est pour une présence plus forte et plus intense. Cette pauvreté, c'est pour permettre à Marie d'être seule à recevoir Jésus. Ça, c'est la délicatesse infinie de Dieu. Et Joseph, il est là, présent, pour sauvegarder cette grande intimité. Il est le gardien de l'intimité, Joseph, parce qu'il accepte la pauvreté. C'est un des rôles du père, cela, gardien de l'intimité de la mère et de l'enfant. S'il est pauvre, et dans la mesure où il est pauvre, il peut jouer ce rôle, et il joue ce rôle. Et nous sommes en présence des premiers gestes de la liturgie chrétienne. Et les premiers gestes de la liturgie chrétienne, ce sont les gestes d'une mère auprès de son tout petit enfant, auprès de son Dieu, qui lui est totalement remis. Ces premiers gestes de Marie auprès du tout petit enfant Jésus, ces gestes de tendresse, ces gestes efficaces de tendresse. Elle emmaillota son enfant. La liturgie chrétienne commence par une prise d'habit. Faut pas l'oublier, hein. Emmailloter son tout petit enfant. C'est merveilleux, cela. Dieu qui demande d'être saisi, d'être pris, d'être enveloppé par ce que Marie avait préparé comme mère pour son tout petit enfant. Surtout si on essaie de comprendre un peu les mœurs du temps, on sait que les emmaillotements de ce temps ne sont pas tout à fait comme ceux d'aujourd'hui, et que c'était fait d'une façon beaucoup plus parfaite. Hein. C'est évident, on voit bien comment l'enfant Jésus a dû être emmailloté merveilleusement par Marie. Ce sont les premiers gestes de la liturgie chrétienne. Puis elle le dépose dans la mangeoire. On sait ce que ça veut dire. Je crois que Marie l'a porté d'abord sur son cœur, longtemps. Et puis Joseph a dû lui dire, hein, « Repose-toi. » Et Joseph a pris le divin fardeau. Et Joseph l'a déposé sur le bois, sur la mangeoire. Pas très longtemps, il faisait froid. C'est très beau, cette liturgie chrétienne à Noël. Hein? Et je dis bien que c'est la liturgie chrétienne, les premiers gestes de la liturgie chrétienne. Pourquoi ? Les anges nous l'indiquent. Parce que nous n'aurions pas trouvé ça tout seuls. Les anges nous l'indiquent. Les anges qui réveillent les petits bergers durant cette nuit de Noël disent aux petits bergers, où est l'enfant ? Où est le sauveur ? Vous verrez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et donc les gestes de Marie servent de signe pour indiquer la présence du Sauveur. Un geste liturgique, c'est le signe de la présence du Sauveur. Le geste liturgique chrétien, il indique qu'il y a une présence. Le geste liturgique du prêtre à la messe, qui lève l'hostie, voici l'agneau de Dieu. Il indique la présence. Il indique la présence cachée de celui qui est notre Sauveur. Et tous les gestes liturgiques indiquent la présence invisible de celui qui est là pour nous, le médiateur entre le Père et nous, Jésus. C'est curieux, hein, que la liturgie chrétienne prend naissance dans la famille. Il y a là quelque chose que nous devons comprendre. La liturgie ancienne n'a pas commencé dans la famille, parce que c'était une liturgie trop solennelle. Tandis que la liturgie chrétienne commence dans la famille, parce que c'est une liturgie d'amour. Et parce que c'est une liturgie d'amour, elle a cette simplicité et elle commence là où on trouve la source de l'amour, le point de départ de l'amour. Marie a continué de prier avec l'enfant Jésus. Je sais très bien que très vite, hein, il y a eu l'alliance de la famille et du temple. Quand Marie a présenté l'enfant Jésus pour la circoncision. Quand Marie et Joseph ont été au temple avec l'enfant Jésus de 12 ans. Il n'y a pas d'opposition entre la liturgie familiale et la liturgie du temple. Il ne doit pas y avoir d'opposition entre la liturgie familiale et la liturgie qui se passe à l'église. Il y a une continuité, il y a quelque chose de nouveau, c'est bien évident. Il y a la présence du prêtre. Et pour que la liturgie soit parfaite, il faut la présence du prêtre. Il faut la famille liée au prêtre. Mais la liturgie commence dans la famille. Et c'est là où il faut essayer de comprendre toute cette prière que Marie a faite avec l'enfant Jésus. Comment cette prière prenait une dimension nouvelle grâce à la présence de l'enfant Jésus. Marie disant ses psaumes, récitant les psaumes, chantant les psaumes auprès de l'enfant Jésus. Marie vivant sa vie religieuse, son adoration, ses demandes. Marie vivant de toutes les grandes prières de l'Ancien Testament auprès de l'enfant Jésus et enveloppant l'enfant Jésus de sa prière. Et très vite, l'enfant Jésus l'accompagnant. Très vite, l'enfant Jésus donnant une signification nouvelle à toute la prière liturgique de Marie. Il y a là quelque chose qui est important pour nous à saisir. Parce que la Sainte Famille demeure toujours pour la famille chrétienne la source et le modèle. Et donc ce qui se réalise dans la Sainte Famille doit se réaliser dans la famille chrétienne, selon un mode particulier qui n'est pas le même, c'est bien évident. Une famille chrétienne n'est pas la Sainte Famille, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de s'identifier à Joseph, à Marie, à l'enfant Jésus. Non. Mais il s'agit de comprendre qu'il y a un lien voulu par Dieu, un lien de participation, un lien réel et profond. Alors, je regarde maintenant la famille chrétienne qui ne doit pas oublier cette présence cachée de la Sainte Famille. Jésus a voulu instituer des sacrements. Il a institué l'Eucharistie. Il a institué le sacerdoce. Il a institué tous les sacrements qui sont les sacrements du Christ et les sacrements de l'Église. Et c'est l'Église qui a précisé la signification profonde de ces sacrements et leur nombre. C'est pour ça que c'est les sacrements de l'Église et les sacrements du Christ. Vous voyez, on dit toujours la parole de Jésus, la parole de Dieu. On ne dit pas la parole de l'Église. Il faut être sensible à ces petites précisions de la tradition et de l'enseignement de l'Église. Les sacrements sont les sacrements du Christ et de l'Église. Et c'est pour ça que l'Église peut modifier la liturgie des sacrements. C'est remis à l'Église. Il ne faut pas l'oublier, c'est remis à l'Église. C'est l'Église qui a, de fait, cette autorité pour modifier la liturgie des sacrements. Et l'Église ne nous demande pas notre avis. Et l'Église nous demande d'obéir. Alors, on est plus ou moins en harmonie, mais on doit accepter que l'Église a autorité par rapport au sacrement. Tandis que l'Église doit garder d'une manière parfaite, intégrale, la parole du Christ. C'est pas la même chose. Et c'est très important de sentir la modalité différente. Pourquoi cette différence? Pourquoi quand il s'agit de la parole de Dieu, on ne dit jamais parole de l'Église? On dit l'enseignement de l'Église. Et on montre que l'enseignement de l'Église, c'est une interprétation théologique, théologale, de la parole du Christ. C'est une herméneutique, comme on dirait aujourd'hui, hein, une interprétation de la parole de Dieu. Et c'est cela l'enseignement de l'Église, c'est de nous aider à entrer toujours plus à fond dans le mystère de la parole de Dieu, dans le mystère de la parole du Christ. Tandis que quand il s'agit des sacrements, et c'est là où j'en viens, le lien du sacrement et de la famille, tandis que quand il s'agit des sacrements, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus pratique. Il s'agit d'éduquer. Les sacrements nous éduquent. La parole de Dieu nous enseigne. Et les sacrements nous éduquent. C'est pour ça, voyez, qu'aujourd'hui, où nous sommes tous très fervents pour comprendre l'instruction, la recherche de la vérité, parce que ça flatte davantage notre intelligence. On est beaucoup plus ouvert vis-à-vis du mystère de la parole de Dieu que vis-à-vis du mystère des sacrements. De fait, je prends ici l'attitude de beaucoup de jeunes. Ils sont beaucoup plus ouverts vis-à-vis de la parole de Dieu que vis-à-vis des sacrements, parce qu'ils ont beaucoup plus de peine à comprendre ce que c'est que l'éducation. L'éducation, c'est un enseignement qui passe à travers notre cœur, dans notre cœur, et qui passe à travers nos gestes, à travers notre sensibilité. L'éducation, c'est tout le côté affectif qui demande d'être purifié, qui demande d'être fortifié, qui demande de remonter jusqu'à sa source, c'est-à-dire Dieu. Ça me frappe beaucoup cela. Avant, je dis avant, mais c'était il y a 100 ans, c'est proche de nous quand même, hein. Avant, les chrétiens, qui étaient de bons chrétiens, vivez plus des sacrements que de la parole de Dieu. On voyait rarement une Bible dans une famille chrétienne. On allait même quelquefois dire, oh non, la Bible, il ne faut pas la lire, hein, faut faire attention. Mais les gens communiaient tous les jours. Et les gens se confessaient régulièrement. Il y avait ce fait, et je crois que ça c'est la conséquence même d'une séparation qui avait eu lieu avec les réformés. Luther insiste sur la parole et les sacrements, on le sait bien, il en diminue la portée, il en diminue l'efficacité. Il les considère surtout d'un point de vue symbolique et en voit moins l'efficacité directe. Et il considère que certains sacrements ne sont pas institués par le Christ et ont été tout simplement ajoutés par l'Église. Alors on comprend la réaction du Concile de Trente, qui insiste énormément sur les sacrements, et qui reprend toute la grande doctrine du Christ, toute la grande doctrine de l'enseignement des grands théologiens sur les sacrements. Aujourd'hui, on sent que l'Esprit Saint demande que nous soyons plus attentifs à la parole de Dieu, que nous entrions plus profondément dans le mystère de la parole de Dieu. C'est une manière, du reste, de nous approcher de nos frères séparés. Mais il ne faut surtout pas que cette avidité plus grande de la parole de Dieu réalise en nous une opposition ou une diminution des sacrements. Il ne s'agit pas de nous mettre à l'école de Luther par rapport aux sacrements. Il faut au contraire comprendre l'enseignement actuel de l'Église par rapport au sacrement. Et le pape actuel, de nouveau, met l'accent sur les sacrements. L'Eucharistie, le sacrement de réconciliation, le sacrement de pénitence, le sacrement de baptême, le sacrement de mariage, on remet en lumière ce qui pendant un certain temps, il faut bien le reconnaître, avait été mis un tout petit peu à l'écart, parce qu'on avait peut-être un peu peur de ce que représentent les sacrements dans leur caractère propre de nous éduquer. Les sacrements ont un caractère plus affectif que le mystère de la parole de Dieu. Un enfant, un tout petit enfant, comprend mieux le langage symbolique des sacrements que ce qui nous est donné comme enseignement dans le mystère de la parole de Dieu. Ça m'a toujours beaucoup frappé. Un tout petit enfant comprend mieux la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Il est attiré par l'Eucharistie. Il est attiré par cette présence invisible. Si sa mère sait l'éduquer du côté de sa foi dans l'Eucharistie, il aime...